Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
Entre les crises successives et un climat parfois anxiogène, les raisons d'être pessimiste et de ruminer ne manquent pas. Peut-être encore plus au travail quand tout ne se passe pas comme on le souhaiterait. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Mon invité pour ce 16e épisode de Good Job va vous aider à vous forger un état d'esprit positif. Jean-Luc Udry est conférencier et auteur du livre « L'optimisme opérationnel au travail » paru aux éditions Duno. Son histoire d'entrepreneur devrait vous inspirer à voir votre quotidien autrement. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Fabienne.
Comment allez-vous ?
Mais très bien, bien sûr. Très très bien.
Votre livre s'appelle « L'optimisme opérationnel au travail ». Quand on parle d'optimisme opérationnel, on parle de quoi exactement ?
On parle d'un optimisme concret, de terrain, adaptable à chacun et qui dépasse les traditionnels concepts de la pensée positive qui sont sans doute intéressants, mais bon, pour aller en entreprise et pour booster les équipes, il faut plus que ça.
Et concrètement, c'est quoi cet optimisme ?
Alors cet optimisme, c'est un ensemble de comportements, c'est un ensemble de techniques, de solutions, un ensemble de choses que nous avons mises en place dans notre entreprise quand, en la reprenant à l'âge de 27 ans, tous les experts, les fameux experts, nous disent qu'elle ne passera pas 6 mois de plus. Et c'est en sachant penser autrement tous les secteurs de l'entreprise, l'adversité, l'intelligence collective. C'est en sachant penser autrement que nous avons réussi à affronter l'adversité et finalement à mettre en place ces fameuses techniques, ces fameuses solutions de manière opérationnelle, si bien que l'entreprise a été sauvée. Voilà.
La belle histoire.
Oui.
Pourquoi c'est important d'adopter cet état d'esprit ?
Eh bien, imaginez que je dise à nos équipes, vous savez, tout ce qu'on va tenter pour sauver notre entreprise ne marchera pas. Imaginez l'effet bœuf que cela ferait si je leur disais ça. Non, il faut voir les choses comme elles sont. C'est important d'avoir un esprit conquérant et lucide. Voir les choses comme elles sont et non pas comme on pense qu'elles sont. Ce qui fait une très grande différence. Voilà pourquoi c'est important. C'est moteur.
Et c'est au moteur aussi à l'échelle individuelle, même quand on n'est pas forcément manager dans une entreprise ?
Bien sûr, parce qu'on ne peut pas réussir tout seul. Je ne prétends pas avoir sauvé l'entreprise tout seul, je prétends même le contraire, ce sont les équipes qui l'ont sauvé. Pourquoi ? Parce qu'on a fait de chaque individu un solutionneur et que individuellement cela lui a profité et donc collectivement cela a profité à tout le monde.
On va essayer de s'intéresser aux solutions justement pour cultiver cet optimisme au quotidien. Et pour cela, je vais vous demander de réagir à un extrait d'une vidéo de Laura Lange, qui est docteur en philosophie, et elle nous parle justement de l'optimisme.
Si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme, lui, est de volonté. Comme l'écrit Alain dans son propos sur le bonheur, une prose de chaleur. Autrement dit, faut le vouloir pour ne pas voir les choses en noir. Néanmoins, je ne voudrais pas faire œuvre de pessimisme, mais il est un optimisme qui en fait peu œuvre de volonté. L'optimisme candide de celui qui, certes, ne voit pas la vie en noir, mais la vie en rose, tout sauf morose. Or, l'optimisme n'est pas seulement l'état d'esprit de celui qui, un brin naïvement et sans faire grand-chose, s'attend au meilleur, fût-il haut en couleur. Mais c'est aussi et surtout une attitude impliquant des comportements engagés. Un optimisme de volonté ne peut se contenter de voir la vie en rose. Il prend la vie en ose, propose, entreprend, agit pour que le meilleur arrive, pour le meilleur et pour le vivre.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Eh bien, anecdote. Lorsque je suis inexpérimenté à 27 ans et que j'arrive pour la toute première fois devant toutes les équipes réunies, et je leur ai concocté un discours, vous allez voir, c'est vrai, la situation est tendue, mais ça va marcher, on va s'en sortir, faites-moi confiance. Et là, un cadre historique de l'entreprise se lève et me dit, voyons Jean-Luc, les clients désertent, chaque fois qu'ils voient nos comptes, le banquier fait une syncope, les fournisseurs n'osent plus livrer, vous êtes très optimiste ? Eh bien nous, on n'y croit pas. Boum ! Et il se rassoit. Et c'est ce jour-là, grâce à Pierre, car il s'appelait Pierre, que j'ai compris tout l'intérêt de savoir penser autrement et justement, comme on le disait tout à l'heure, de penser autrement tous les domaines, l'adversité, le changement, le collectif. Et c'est ainsi que je rejoins cette personne qui s'exprime dans le son. En effet, un optimisme est un optimisme de volonté, mais j'irai même encore plus loin. On ne peut pas promouvoir un optimisme qui soit simplement, vous savez, je croise les doigts, je me mets dans mon fauteuil, ça va passer, etc. Ça, c'est ce que j'avais fait en étant inexpérimenté, ça n'a pas fonctionné. Par contre, fonder un véritable optimisme opérationnel, c'est se confronter à l'adversité et mettre en place une série d'outils et de techniques qui font que cet optimisme ne repose plus sur un seul optimisme d'intention, ça va marcher, on y croit, mais sur des faits et sur des résultats. Et c'est comme cela que peu à peu, vous vous forgez un véritable optimisme qui ne tombe pas du ciel, qui n'a rien à voir avec le hasard, mais qui est fondé, encore une fois, sur des faits et des résultats. Et c'est ça l'optimisme opérationnel, et c'est pourquoi je souscris à ce qui vient d'être dit.
Et du coup, la première étape, c'est d'être dans l'action, dans le mouvement, au lieu de ruminer, de ressasser ?
La première étape, c'est de voir ce qui est. Première étape, voir ce qui est, et encore une fois, séparer cela de l'affect. Parce que si en arrivant dans l'entreprise, je vois ce qui est, eh bien, c'est vrai, c'est une boucherie, c'est un carnage, hein, c'est le Titanic. Donc si je vois ce qui est, eh bien, pourquoi est-ce que j'irais bouleverser ma vie et aller dans cette galère, en quelque sorte ? Donc, je préfère prendre le temps, regarder ce qui est, être lucide, séparer les faits de ce que je pense des faits, et à partir de là, mettre en place toute une série de techniques pour booster les équipes.
Dans votre livre, vous dites à un moment qu'il est plus productif de concentrer son énergie sur la résolution de problèmes et de s'en occuper plutôt que de s'en préoccuper. C'est ça aussi une des clés ?
Alors, une des clés, c'est évidemment de raisonner solution. Chez nous, c'était absolument invraisemblable. Chaque fois qu'il y avait un problème qui apparaissait, c'est-à-dire tous les jours, hein, eh bien, chacun prenait le problème, allait voir son collègue ou son manager en disant « Ben voilà, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ?» Et finalement, personne ne réglait rien du tout. Alors, un beau jour, j'ai dû prendre un petit coup de sang pour réveiller les esprits et les consciences et pour dire que désormais, à chaque fois que quelqu'un viendra me voir avec des problèmes, ma porte sera fermée et que quand il viendra avec des problèmes et des solutions, elle sera ouverte le temps qu'il veut. Et c'est ainsi que nous avons mis en place une méthode que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais une méthode simple qui a fait que chacun est devenu un solutionneur et s'est approprié chaque question qui était pendante dans l'entreprise. Quand il y avait un problème, automatiquement, on l'analysait et après, on basculait dans « je suis un solutionnaire », si bien que chacun est devenu lui-même une partie de la solution. Et c'est ainsi qu'en raisonnant systématiquement solution, nous avons pu sauver cette entreprise et la développer près de 20 ans.
Quand on est manager, comment on fait pour embarquer ses équipes justement dans cet état d'esprit et notamment quand on a un discours à faire, vous le disiez au début du podcast avec le début dans cette entreprise pour vous, comment on embarque les autres ?
Une équipe, selon moi, doit savoir où elle va, pourquoi elle y va et ce qu'elle a à y gagner. Si déjà vous dites ça à votre équipe, vous avez fait 80% du chemin. Le reste, c'est l'exemplarité. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et avec un équipage comme celui-là, on peut voyager loin.
C'est aussi peut-être être authentique et se montrer soi-même ?
Ah ben, complètement. Il ne faut pas avoir peur de douter. Exprimer ses doutes, c'est quelque chose de porteur. Non pas douter en permanence, non pas trembler parce que ça ne sert strictement à rien. Dire que sur ce choix que nous avons à faire, doit-on contacter tel ou tel client, doit-on mener telle ou telle action ? On a un doute. On parle de ce doute, on exprime ce doute, on le formalise. Et après, on formalise, et puis après, on raisonne solution et on avance. Être authentique, c'est essentiel.
Si on veut aider nos auditeurs à être peut-être un peu plus optimistes au quotidien, quelles seraient, une ou deux bonnes pratiques que vous auriez à leur donner ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos journées de travail pour changer un petit peu la donne ?
Alors, il y a ce que l'on entend assez souvent, souriez, détendez-vous, faites le tour du pâté de maison. C'est gentil, c'est sympathique, mais c'est gentil et c'est sympathique. Je crois qu'il faut travailler l'optimisme dans son acception la plus complète, c'est-à-dire se confronter aux choses. Parce que c'est là, c'est en se confrontant aux choses, aux événements, aux hommes et aux situations qu'on arrive à fonder cet optimisme. Donc, je n'ai pas de conseils à donner. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer des exemples. Assez de conseils, assez d'injonctions. Montrons des exemples de choses réussies. Et par exemple, justement, dans un bureau, vous ne savez pas aujourd'hui s'il faut mener telle ou telle action. Vous aurez toujours ceux qui vont vous dire « De toute façon, on a déjà essayé, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible, c'est cuit d'avance, etc. » Comme je l'ai entendu, mais tellement de fois. Et plutôt que de dire à cette personne « Mais si, tu vas voir, sois positive, sois optimiste, ça va marcher. » Faites les choses. Montrez-lui que ça a marché. Et un peu plus tard, vous revenez voir cette personne en disant « Tu vois, on n'aurait pas cru. » Mais finalement, ça a fonctionné. Voilà, sans jouer les gros bras, sans en tirer un profit. Tu vois, j'ai gagné, tu avais tort. Montrer des exemples de choses réussies. C'est le meilleur moyen de convertir les éternels pessimistes qui vous savonneront la planche du soir au matin, comme on l'a fait chez nous.
À l'inverse, quels sont les écueils peut-être à éviter, les deux extrêmes d'être trop pessimiste ou trop optimiste ?
Je comprends tout à fait votre question, très pertinente. Les écueils, c'est de tomber dans la psychologie positive à outrance. Vous voyez, la personne qui a une vie détruite, une vie professionnelle détruite, une vie privée qui ne fonctionne pas, qui dit « c'est super, j'adore, c'est un bien, etc. » Non, moi je ne suis pas là-dedans du tout. Je pense que les écueils, c'est l'aveuglement. C'est une persévérance excessive, parfois, parce qu'il faut savoir justement rester lucide et persévérer là où on a une marge de manœuvre, pas là où on mouline pour rien. Donc, ne pas être... par principe est excessivement optimiste, et je dirais que le vrai... moi, je suis un ancien pessimiste chronique, pour ne rien vous cacher. Et je pense que le véritable optimiste opérationnel est quelqu'un qui sait garder une petite dose de pessimisme. Pourquoi ? Parce que c'est un aiguillon. Ça vous maintient éveillé. Ça vous alerte sur tel ou tel danger. Tandis que si vous êtes en permanence dans le « tout est formidable, ça marche, c'est génial », etc., là, vous perdez justement votre sens de l'analyse, vous perdez votre envie de faire les choses, vous comptez sur finalement quelqu'un d'autre pour résoudre le problème qui ne se résoudra pourtant pas tout seul. Donc voilà, pas d'aveuglement, de la lucidité.
Alors, vous parliez beaucoup d'adversité. Certaines personnes ont connu des épreuves de vie assez extraordinaires. Et je vais vous citer un extrait du livre de Moi, Malala, qui, du coup, a été écrit à l'issue de son prix Nobel. Et je vais m'intéresser aux remerciements, ce que je ne fais pas souvent. Mais l'idée étant de voir, est-ce que la première étape aussi pour être optimiste, ce ne serait pas déjà d'être reconnaissant de ce qu'on a et, comme on le disait, de voir peut-être les choses un petit peu autrement. J'aimerais tout d'abord remercier tous les gens qui, partout dans le monde, m'ont soutenu, moi et aussi ma cause. Je suis reconnaissante pour tous les messages et toutes les prières qui m'ont été destinées. Je suis bénie d'être née de parents qui respectent la liberté de pensée et d'expression de tous. Ma famille est avec moi à chaque étape du chemin. Mon père m'a encouragée à poursuivre mon rêve de défendre la paix et l'éducation, et ma mère nous a soutenus tous les deux dans cette campagne. Je suis honorée d'avoir eu d'excellents professeurs et d'avoir fréquenté une très bonne école dans le SWAT. J'ai été soignée dans de très bons hôpitaux au Pakistan et en Angleterre et je suis à jamais reconnaissante envers les médecins et les infirmières qui ont pris soin de moi. J'ai pris plaisir à être la patiente. J'ai de la chance aussi d'avoir une extraordinaire meilleure amie, Moniba. Elle m'a toujours incitée à avoir confiance en moi et à ne jamais perdre espoir. Être capable de partager mon histoire est une autre bénédiction. Écrire un livre est une tâche exigeante et j'ai eu beaucoup de gens à remercier, eux qui m'ont aidée dans cette aventure. Merci pour finir à tous ceux qui lisent mon histoire et trouvent espoir et inspiration dans ces pages. Mon parcours n'a pas toujours été aisé, mais j'ai toujours cru que la vérité et la bonté finiront par prévaloir. Je suis heureuse et honorée par-dessus tout de pouvoir parler au nom de ceux qui ne le peuvent pas. Merci. Quand on sait tout ce que Malala a traversé, on se dit que quand même, il y a de quoi apprendre de son parcours et de sa vision des choses.
Alors, plusieurs choses. D'abord, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on a déjà. Par ailleurs, je ne suis pas prix Nobel, ça ne nous a pas échappé, mais néanmoins j'ai une histoire. Et cette histoire, je l'ai écrite dans un livre qui s'appelle « Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie » qui améliore la vôtre, ça veut dire qu'elle a des enseignements. Ne le cherchez pas, je le publie sur LinkedIn pour expliquer en quoi l'adversité fait tanne le cuir, en quoi l'adversité fait de vous un homme ou une femme en l'occurrence. Et je crois que la gratitude, c'est une chose, j'ai vécu un enfer pendant presque 25 ans, plus de 25 ans même, alors que tout avait très bien commencé pour moi, et pour des raisons que je ne peux pas développer ici, je n'en ai pas le temps, ce fut cette vie qui était merveilleuse s'est transformée en enfer. Et puis j'ai un tout petit peu poussé pour que la roue tourne, pour que justement cette adversité qui a des failles puisse me lâcher enfin. Et aujourd'hui, si j'adore ma vie, faite de conférences, de livres, c'est justement parce qu'il y a eu cette histoire, et c'est là le point commun avec ce que vous venez de lire, le texte magnifique que vous venez de lire. Je crois que quand on a une histoire, il ne faut pas considérer que c'est la histoire, the histoire, l'histoire du siècle, mais c'est une histoire qui peut inspirer tant de gens. Et donc la gratitude, moi, aujourd'hui, très modestement et sans prix Nobel, bien que j'essaye, mais ça n'a pas l'air de venir, la gratitude, c'est que la vie qui avait si bien démarré pour moi, m'a ensuite envoyé quelques épines dures, très très dures, mais qu'aujourd'hui, je vis une vie extraordinaire.
Si je vous emmène un petit peu dans le futur maintenant, en 2050, la question de l'optimisme, elle sera comment selon vous ?
Alors en 2050, j'aurai 37 ans. Un commentaire, Fabien ?
Moi 25, ça me va très bien.
Et je crois que le plus important de tout, notamment dans les entreprises, Fabienne, c'est quoi ? Vous pouvez avoir le design, la finance, le marketing. Le plus important, c'est le mental. Je pense que je ne sais pas où on sera en 2050, je ne sais pas ce qu'on fera. Ce que je sais, c'est que les générations futures, aujourd'hui, si nous pouvons les aider, le meilleur héritage qu'on puisse leur laisser, c'est de leur forger un moral, de leur forger un mental. Dans la lucidité, en ne prenant pas des vessies pour des lanternes, mais en sachant que l'adversité peut être vaincue dès l'instant où on est équipé dans sa tête. Et donc en 2050, je ne sais pas où je serai. À 37 ans, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mon Dieu, la vie s'ouvre à vous. Mais ce que je sais, c'est que le mental sera toujours là.
Il y a une tradition dans ce podcast, c'est que mon invité pose une question à mon invité suivant. Donc je vais vous faire écouter la question de Régis Rossi sur la concentration, l'attention au travail.
Alors la question que j'aurais envie de poser, c'est en quoi l'attention est-elle un facteur décisif dans la réussite de vos projets ?
L'attention en un mot ou en deux mots, mon cher Régis ? Il faudrait préciser ça.
L'attention en un mot.
L'attention. Ok, je veux dire la concentration, donc c'est ça que je comprends.
Exactement.
Il vaut mieux rester concentré 3 heures sur quelque chose que de rester 10 heures à ne rien faire. Et ça rejoint un thème que nous avons développé justement dans notre entreprise à l'époque, qui était le thème de la flexibilité. Et je suis très sensible au thème de la flexibilité. Anecdote, un jour, je rentre dans une salle où il y avait 6 ou 7, je ne sais plus, collaborateurs qui étaient en train de deviser gaiement. Et me voyant rentrer de manière un peu brusque, je l'avoue, tout à coup, ils se remettent à travailler comme s'ils étaient complètement affairés. Et cette attitude-là m'a ouvert les yeux. Et je leur ai dit, mais attendez, pourquoi faites-vous ça ? Vous êtes en train de bannir la confiance que nous avons créée dans cette entreprise. Et ils me répondent, mais c'est parce qu'on ne voulait pas que vous nous voyiez sans rien faire. C'est là où je leur ai dit la chose suivante. Mais attendez, fixons-nous quelques règles simples. Vous avez une mission à remplir, avec un haut standard de qualité, avec une satisfaction client qui doit être irréprochable. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dès l'instant où vous avez terminé votre mission, si c'est 1 heure, si c'est 2 heures, si c'est 3 heures avant l'heure prévue, tant mieux pour vous. Et à partir de ce moment-là, nous avons établi comme règle dans la société que pour les postes où c'était possible, ça ne l'était pas partout, eh bien, on allait suivre ce principe. On a une mission, on donne le maxi pour atteindre cette mission. Et puis, si mon Dieu, on a une pause à faire, à disputer avec les collègues, et si on a terminé, tout va bien. Eh bien, c'est ce principe-là qui, je pense, aujourd'hui, est repris par les nouvelles générations qui souhaitent mieux vivre, avoir plus de sens. Hein, le fameux sens dont on parle tout le temps.
Voilà. Tout à fait, la quête de sens et de
la
flexibilité.
Quête de sens, c'est ça, la flexibilité.
Alors, vous avez compris, Jean-Luc, je vais vous faire travailler un petit peu. Quelle serait votre question pour mon prochain invité ?
Est-ce que il ou elle envisage d'introduire un optimisme opérationnel comme élément du succès de son entreprise, ou est-ce qu'ils considèrent toujours comme certains que c'est un luxe ?
Question limite philosophique.
Peut-être, mais il y a encore des gens qui pensent que, voilà, quand on utilise le mot optimisme, on est dans le confort, dans le luxe. Non, ces gens-là n'ont pas tout compris. Je pense qu'on est dans le bien-être, dans le savoir-être, dans le savoir-faire, et la performance est au cœur de l'optimisme opérationnel.
Merci beaucoup, Jean-Luc.
C'est déjà fini ?
Déjà.
Sniff.
Et je rappelle votre livre paru aux éditions Dunod, L'optimisme opérationnel, guide pratique pour vaincre l'adversité, mieux manager et entreprendre. Bonne journée, à bientôt.
Merci beaucoup Fabienne, à bientôt.
Merci.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. Ooh.